Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Aujourd'hui, par exemple, deux films sur la guerre qui ne sont pas des films de guerre et un roman intraduisible. C'est son auteur lui-même qui ne voulait pas qu'on le traduise. Au sommaire également, les télescopages de Bruno Donnet, le portrait de Lisa Marie Marquez, les voix de Marc-Antoine Lebray et le journal des médias et les audiences et l'entrain de terminer les calculs de Louise Bernard. Notre info média va se pencher sur une campagne de harcèlement qui cible dans les cours d'école les enfants nés en 2010 et qui entrent en 6e. C'est une info média à cause d'un hashtag apparu sur le réseau TikTok anti-2010. Il a à voir avec les jeux vidéo. Comment s'en défaire ? Réponse avec Justine Atlan de e-Enfance. C'est une association et Guylaine Morvan-Dubois de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Paris. Et puis nos invités, Rachid Ambarki, journaliste de BFM TV, de Faites Entrer l'Accusé, après Éric Zemmour, après Didier Raoult, après Nabila encore. Il s'attaque ce soir sur RMC Story à la face cachée de Diams, star du rap dans les années 2000 qui a tout arrêté pour se convertir à l'islam et porter le voile. Pourquoi, comment, il nous dira. Enfin, le comédien Philippe Lelièvre, que le grand public avait découvert comme prof de théâtre dans la Starac, il remonte sur les planches pour son seul en scène, Plus que givré, et le titre n'est pas survendeur. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Lise Bernard.
Bonjour, ça y est, j'ai fini mes calculs.
Au sommaire de votre journal des médias.
On va parler de l'appel à l'aide des journalistes afghans. On vous donne le nom du nouveau parrain du Téléthon, Nagui, qui demande au public de laisser une chance à The Artist. Et puis beaucoup d'actu-séries ce matin, vous verrez.
Mais d'abord donc les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Oui, j'ai fait mes petits calculs parce qu'il faut faire la moyenne des deux premiers épisodes. Il y avait hier deux lancements de séries, mais des séries qui ont terminé derrière M6. M6 qui était premier avec L'amour est dans le pré et qui signe un nouveau record de saison, 4 100 000 téléspectateurs, 19,6% de part d'audience, encore en hausse. Ça progresse chaque semaine pour L'amour est dans le pré. Deuxième, TF1 avec le lancement d'Une affaire française, c'était la série inspirée de l'affaire du petit Grégory, 3 750 000 téléspectateurs, 18% de part d'audience. Un peu décevant, hein, TF1 qui pouvait espérer être devant M6 avec le lancement de cette série événement. France 2, troisième, et en revanche c'est un bon lancement pour cette mini-série L'absente, qui avait donc une forte concurrence hier. 3 390 000 téléspectateurs en moyenne devant les deux premiers épisodes. 15,8% de part d'audience. On peut dire globalement, il y avait du monde devant la télé hier.
Culture Média.
À la une des médias, un appel à l'aide, celui d'une centaine de journalistes afghans vers les institutions internationales.
Aidez-nous à faire survivre le journalisme afghan. Ils sont 103 à lancer cet appel par l'intermédiaire de Reporters sans frontières. Tous restent anonymes par peur des représailles. Sur le terrain, la répression s'est accentuée ces 10 derniers jours, notamment lorsqu'ils couvrent les manifestations. Censure, intimidation, arrestation et torture. Quant aux femmes journalistes, elles sont tout simplement en train de disparaître. Écoutez Pauline Adès-Mével, elle est porte-parole de RSF.
De 700 à Kaboul, elle ne serait plus que 60, 80, en tout cas moins d'une centaine aujourd'hui dans la capitale afghane à pouvoir exercer. Ceci s'explique par la répression en fait des talibans. Ils se rendent dans les rédactions, ils demandent aux dirigeants, aux rédacteurs en chef que les voix féminines disparaissent de l'antenne. On demande aux femmes, on leur intime de rester à la maison, ces femmes journalistes. Elles se cachent, il y a une autocensure qui s'exerce évidemment dans ce contexte. Elles étaient très présentes, il y a beaucoup de journalistes présentatrices connues qui incarnaient la condition féminine afghane et c'est très important qu'elles demeurent présente, elle représente la moitié de cette population afghane.
Un reporter sans frontières qui relaie donc cet appel des journalistes. Certains de ces journalistes sont en exil, une dizaine seulement, d'autres vivent en clandestinité. Tous demandent des garanties de protection et des moyens pour maintenir ou rouvrir des médias afghans. Ils ne veulent pas voir le journalisme s'éteindre comme ce fut le cas entre 1996 et 2001, car le rôle de ces journalistes afghans est essentiel.
Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui peuvent raconter ce qui se passe. Bien sûr, il y a des reporters étrangers qui se rendent dans le pays, mais ils rentrent. Ces journalistes afghans ont besoin d'informer, ont besoin de dire ce qu'ils traversent aujourd'hui, particulièrement depuis l'arrivée des talibans et la formation d'un gouvernement. Et puis, ils ont besoin aussi d'être protégés pour pouvoir travailler. C'est pour ça qu'ils lancent cet appel aujourd'hui. Ils ont besoin d'un soutien puissant de la communauté internationale. Ils ont besoin qu'on se mobilise avec eux pour la survie, pour le futur du journalisme afghan.
L'Afghanistan, qui n'était déjà que 122e pays sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, mais c'était en avril dernier, avant la reprise des talibans à Kaboul.
Retour en France, où France Télévisions vient de dévoiler le nom du parrain du Téléthon 2021.
Ce sera le chanteur marseillais Soprano. Soprano, personnalité très populaire, parrain de la 35e édition, donc ce sera le 3 et 4 décembre prochain. Il succède à Matt Pokora. C'est la première fois que Soprano est parrain, mais ce ne sera pas sa première participation au Téléthon. Il est régulièrement intervenu à l'antenne lors des éditions précédentes. Le rappeur s'est dit très honoré, très fier de ce rôle de parrain. Pour donner encore plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement, dit-il. Il participera donc aux 30 heures de direct avec les animateurs de France Télévisions, les familles de malades, les chercheurs et tous les bénévoles. Une mobilisation, faut-il le rappeler, contre les maladies rares. Objectif de cette année, eh bien faire mieux que l'édition précédente, donc récolter plus de 77 millions d'euros. Et le Téléthon, c'est aussi l'occasion de montrer à quoi sert l'argent, à quoi sert les dons, à quoi servent les dons des années précédentes, montrer au public les progrès scientifiques des dernières années, de réelles avancées grâce aux dons, notamment les premiers traitements pour certains malades.
Alors parmi les animateurs du Téléthon, il y aura Nagui, ce sera en décembre prochain, mais en ce moment, Nagui est à la peine, c'est un euphémisme, avec sa nouvelle émission, son télécrochet musical.
Oui, donc il appelle le public à le regarder, très déçu des mauvaises audiences. Mauvaise dès le lancement, 1 300 000 téléspectateurs pour la première, puis un peu moins d'un million samedi dernier. Donc le producteur et animateur a posté une vidéo sur les réseaux sociaux.
Alors 1 million, ça fait 60 Bercy, plein à craquer. Donc c'est génial quand on chante des chansons nouvelles, quand on n'est pas connu et qu'on fait tout pour être connu, je pense aux artistes qui se sont produits. Mais pour la télé, c'est pas super bon, on va pas se mentir.
Il rappelle que The Artist est une création française unique au monde, puisque les artistes sont tous auteurs, compositeurs, interprètes. Ils ne reprennent pas des chansons, mais font découvrir leur création au public. Public qui peut d'ailleurs voter gratuitement. Nagui reconnaît des erreurs sur la première émission, mais il souligne qu'il en a corrigé beaucoup sur la deuxième. Alors il appelle ce public à regarder les suivantes.
Mais j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à pas l'avoir vue, cette deuxième émission. Alors elle est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Benabar, tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l'originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas. Mais la nouveauté peut avoir du bon, je compte sur vous. On a besoin de vous et je vous assure qu'on s'est amélioré.
Vie Artiste, troisième émission, samedi soir, donc à 21h05 sur France 2, toujours face à The Voice.
Voilà, et les audiences pour nous, toujours le lundi matin. On passe à l'actualité des séries riches aujourd'hui. La mini-série Le Jeu de la Dame n'aura pas de suite.
Oui, pas de saison 2 pour ce succès de Netflix sur une championne d'échecs, qui avait d'ailleurs fait exploser les ventes de jeux d'échecs. Son créateur l'a annoncé lors des Emmy Awards, où Le Jeu de la Dame a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure mini-série. Pas de suite. Pour ne pas ternir son succès, les créateurs ont le sentiment d'avoir déjà tout raconté. C'est rare pour être souligné.
France Télévisions qui s'associe avec une plateforme étrangère pour produire une série. Donc.
C'est une première pour le service public et ce sera avec Amazon Prime Video pour une série d'action baptisée Cœur Noir autour des forces spéciales. Avec comme réalisateur Ziad Doueri, à qui on doit notamment le superbe film L'Insulte ou la tout autant géniale mini-série Dérapage. La série sera d'abord diffusée sur Amazon avant d'arriver sur France Télévisions. Ce partenariat, c'est un plan B, a précisé France Télé, le groupe dit privilégier les coproductions avec les diffuseurs publics européens, mais il va tout de même coproduire une autre série avec une plateforme, série fantastique, dont la plateforme étrangère, son identité est gardée pour l'instant secrète.
Et puis là on parle d'un acteur, le retour à la télévision d'un acteur de série culte.
Matthew Fox, alors vous avez eu le temps d'oublier son nom, c'est l'un des acteurs principaux de la série Lost, c'est un énorme succès, ça s'est arrêté il y a plus de 10 ans, Matthew Fox qui incarnait le docteur Jack Shepherd. Depuis, il a joué quelques petits rôles au cinéma seulement. Cette fois, il revient à la télévision avec un rôle, un vrai rôle, dans une mini-série, Last Light. Ce sera une dystopie dans laquelle laquelle la Terre manquerait de pétrole.
Et puis on termine avec Éric Rochant qui travaille actuellement sur une nouvelle série d'espionnage.
Éric Rochant, pareil, si le nom ne vous dit rien, je vous le replace, c'est le créateur du Bureau des Légendes sur Canal+. Il veut adapter Harlot's Ghost, c'est un roman d'espionnage de Roman Mailer, roman qui raconte...
Norman,
ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, Normand ?
Roman, vous aviez lu deux lignes à la fois, mais c'est vraiment pas grave.
Star
Norman Mailer et c'est un roman.
Un star roman, exactement.
Aucun souci.
Bon, tant que vous suivez pour moi, c'est bon. Donc le roman d'espionnage qui raconte le rôle de la CIA pendant la guerre froide, c'est un rêve d'adapter ce roman, dit-il, et un énorme défi créatif, mais transposé à l'écran l'un des récits les plus puissants sur l'histoire de la CIA et des États-Unis, c'est un risque qui mérite d'être pris. On a hâte de voir ça.
Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, des élèves de 6e harcelés sur les réseaux sociaux, puis dans la cour de récréation. Pour quelle raison ? Parce qu'ils sont nés en 2010 pour répliquer. Le gouvernement a lancé son propre hashtag. Est-ce que ça marche ? Nous en parlons avec deux connaisseuses du dossier, Justine Atlan d'e-enfance et Guylaine Morvan-Dubois de la FCPE. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Depuis leur rentrée au collège début septembre, certains élèves sont victimes d'insultes et de moqueries sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'ils sont nés en 2010. Lancée sur TikTok avec le hashtag anti-2010, cette campagne de cyberharcèlement a été consultée plus de 40 millions de fois, sans parler des dizaines de milliers de commentaires haineux à l'encontre de ces enfants entrant cette année en 6e. Le ministre de l'Éducation nationale a appelé à la bienveillance des élèves plus âgés et a lancé un contre-hashtag en réponse « Bienvenue au 2010 ». Mais pourquoi les réseaux sociaux deviennent-ils le canal de harcèlement des plus jeunes ? Les médias ont-ils leur part de responsabilité en relayant ces campagnes de harcèlement, ce que nous sommes en train de faire actuellement, et quelle réponse pour protéger ces enfants ? Pour répondre, deux connaisseuses du sujet. Bonjour Justine Atlan.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'association e-enfance, association de protection de l'enfance sur Internet. Bonjour Guylaine Morvan-Dubois.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Paris. Justine Atlan, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui est reproché à ces enfants nés en 2010 exactement ?
D'être nés en 2010. Puisque le hashtag ne pointe que ça, c'est tout le problème justement.
Mais ça part d'où ?
Ça part en fait du fait qu'ils arrivent en sixième, donc en fait que l'année dernière c'était encore des petits élèves de primaire et que donc ils arrivent au collège et donc les plus grands considèrent qu'ils viennent perturber et nuire à leur environnement de jeux en ligne, de cours de récréation et tout le reste.
Je n'ai pas très bien posé la question, pourquoi on ne reprochait pas aux enfants nés en 2011 ou 2009 d'être nés en 2011 ou 2009 ?
Alors apparemment c'est aussi parce que cette génération c'est la première qui a atteint une dizaine après 2010 et c'est une génération qui se reconnaît beaucoup entre elles par leurs années de naissance, t'es un quoi toi 2004, 99 etc. Et là c'est une dizaine donc c'est assez symbolique, ça sonne bien et on voit bien que c'est une génération qui s'exprime y compris à l'oral avec des hashtags quelque chose. Donc là c'est vraiment symboliquement, on est en plein dans la génération du numérique qui est née avant et qui fait tout aussi par ce biais-là.
Et il y a un rapport avec un jeu vidéo Fortnite, on le reproche de mal jouer. Que vient faire ce jeu vidéo dans cette affaire de harcèlement ?
Il ne vient pas faire grand-chose. C'est un vecteur, en fait, un vecteur supplémentaire. Ils jouent tous aux jeux vidéo. D'ailleurs, c'est devenu très mixte. Ce n'est pas que les garçons à cette génération-là. Fortnite, c'est le jeu qui a été accessible sous toute plateforme. Enfin, c'est un succès phénoménal, jamais connu à ce point-là. Et donc, voilà, ils considèrent qu'ils viennent les gâcher. Vraiment, c'est la cour de récréation qui s'est déplacée dans l'environnement numérique, qui s'est élargi, y compris, effectivement, sur un jeu comme ça.
Et on leur reproche aussi, là, je suis obligé de lire mes notes parce que je n'aurais jamais pu le trouver, de jouer au pop dont une musique a été issue, la Pop-It Mania. Vous pouvez en parler ou pas du tout ?
Le Pop-It, c'est les bulles là, de plastique qu'on adore faire craquer, qui font du bruit. Alors, c'est ce nouveau jeu qui fait fureur chez les plus petits. Je pense que des collégiens y jouent aussi beaucoup. Hein. Mais voilà, mais c'est toujours pareil. C'est les petits qui deviennent grands et c'est pas si évident que ça qu'ils sont très grands. Alors, ils ont besoin d'humilier les plus petits pour montrer qu'ils sont très différents. Et ça passe par, effectivement, un certain nombre de jouets rituels symboliques de cette génération-là dont ils veulent complètement se différencier de façon un peu artificielle, manifestement.
Alors, on va écouter un extrait de la musique Pop-It Mania que le mouvement anti-2010 a beaucoup relayé et reproché aux enfants d'écouter. 7 millions de vues en un mois, ce qui est prodigieux. Et les commentaires de la vidéo ont été désactivés par la chanteuse pour éviter la haine. Écoutez.
Pop-It. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi ? On est sur toutes les trends. On est les queens des 2010. Pop-It dans le sac de Wings.
Juste Netland, on est les queens des 2010. Comment cette campagne est née sur les réseaux sociaux ? Il y a des réseaux sociaux où le harcèlement est plus prégnant, présent qu'ailleurs ?
Non, pas, structurellement, non. Oui. Après, c'est ceux où ils sont le plus. En ce moment, ils sont beaucoup sur TikTok, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup sur TikTok, ce harcèlement. Mais il y a quelques années, ils étaient plus sur Snapchat. On l'aurait vu sur Snapchat. C'est pas lié au réseau lui-même, encore une fois, de son fonctionnement. C'est lié là où ils sont. Et cette génération-là, elle est massivement sur TikTok. Mais on l'avait aussi un peu sur Instagram. Puis ça s'est déplacé sur Twitter.
Alors là, on est sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va passer dans la vraie vie, IRL, in real life, comme on dit. Guylaine Morvan-Dubois, on est face à un mouvement né sur Internet qui, malheureusement, se matérialise sur le terrain dans les cours de récréation. Quelles sont les remontées des profs et des élèves? Comment ça se passe sur le terrain?
Alors, sur le terrain, le harcèlement a toujours existé et malheureusement, il touche énormément d'élèves. On est à plus de 12% en primaire, on est à plus de 10% en collège. Donc, il s'est effectivement déplacé sur le terrain numérique. C'est leur nouvelle cour de récréation, surtout post-confinement. Pendant le confinement, ils ont beaucoup été sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup communiquer numériquement. Donc là, aujourd'hui, le harcèlement s'est déplacé aussi et devient massif au niveau des réseaux sociaux. Donc l'intérêt des campagnes en fait, de prévention, c'est aussi de passer par ces réseaux sociaux et d'utiliser les mêmes médias.
Donc, alors justement, puisque vous parlez de médias, cette campagne de dénigrement a beaucoup été relayée par les médias ces derniers jours. Et là, on se pose une question, est-ce que ça a renforcé la visibilité du hashtag, donc mis en danger davantage d'enfants? Au contraire, est-ce que ça a contribué à faire redescendre la pression? Guylaine Morvan-Dubois, puis la même question à Justine Nathelan ensuite.
Alors, les remontées qu'on a au niveau des parents, c'est qu'il y avait une énorme inquiétude au départ, avant que les parents d'élèves, en particulier que la FCPE, donnent l'alerte et que le ministre réagisse. Ensuite, une fois que le problème a été pris en compte, on a senti que la pression redescendait. Ils ne se sont plus sentis tout seuls. Et je pense que ça, c'est fondamental dans le harcèlement. Les remontées concrète, c'est compliqué à dire parce qu'en effet, par définition, quand ça se passe bien, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, définir l'absence, c'est toujours compliqué.
Je vous pose la même question, Justine Nathelan. Est-ce que la couverture médiatique a contribué à faire monter ou à faire descendre le harcèlement et ces phénomènes-là?
C'est l'éternelle question. Hein, toujours, est-ce qu'on met l'huile sur le feu quand on parle d'un phénomène comme ça et qu'il aurait mieux valu le taire? On a déjà ces questions-là sur des challenges, parfois des choses comme ça. Nous, on considère qu'informer, c'est jamais problématique, au contraire. Ce qui est problématique, c'est d'être dans le déni des problèmes et de laisser effectivement les victimes toutes seules. C'est pas parce qu'on en parle dans les médias que ça va pousser certains à le faire ou ça va être tellement marginal que ça n'a pas d'effet sur le phénomène en lui-même. C'était très important que les adultes soient au courant, que les parents soient au courant, que les professionnels soient au courant. Je pense que sans les médias, le ministre n'aurait pas fait cette vidéo et n'aurait même pas été au courant, parce que c'est parce que les médias en ont parlé que c'est remonté au ministre, ouais. Sinon à mon avis ça n'aurait pas été le cas. Donc non, je pense que franchement dans la balance, c'était plutôt une bonne chose d'en parler.
On va entendre dans la deuxième partie de cet entretien le son du ministre Jean-Michel Blanquer. Juste un tout petit mot, Justine Nathelan, pour relever ce hiatus. Les réseaux sociaux, notamment TikTok, sont interdits aux moins de 13 ans et pourtant les élèves qui entrent en 6e ont 10, 11 ou 12 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette?
Alors, il y a un trou dans la raquette qui dépasse largement le problème des réseaux sociaux. Il y a un trou dans la raquette sur Internet pour identifier les majeurs et donc les mineurs. Ça concerne aussi l'exposition des jeunes à la pornographie. Il y a plein d'autres sujets. Mais tant qu'on n'est pas effectivement en capacité sur Internet de savoir si en face l'internaute est majeur ou mineur, eh ben oui, effectivement, c'est que du déclaratif. Donc, je peux très bien dire à TikTok, à Snapchat ou à Instagram que j'ai 18 ans, même si j'en ai que 8.
On va entendre des témoignages d'élèves. On va entendre le témoignage du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Le débat continue. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous parlons de ce hashtag dans les cours de récréation et sur les réseaux sociaux anti-2010 qui a fait florès sur TikTok et Snapchat et qui maintenant est en train de se répandre ou peut-être de s'arrêter. On va écouter un témoignage de deux élèves de 6e. Ils sont nés en 2010. Donc, c'est un reportage du 20h de TF1 de vendredi dernier, filmé évidemment dans une cour de récréation.
Ils ont dit les 2010 c'est des losers et je comprends pas pourquoi.
Il y avait des 3e, 4e qui nous bousculaient.
Allô,
qui
allô, disent,
allez, poussez-vous, rentrez chez vous les 2010.
Voilà, les 3e et les 4e qui bousculent les 2010, rentrez chez vous. Guylaine Morvan-Dubois, je rappelle que vous êtes la présidente de la FCPE Paris. Vous avez reçu des témoignages inquiétants ou seulement inquiets?
On a reçu beaucoup de témoignages inquiets de parents auxquels les enfants avaient parlé, et c'est important qu'ils leur parlent, parce qu'ils étaient effectivement menacés pour le lundi suivant qu'on leur casse la gueule, pour être très clair. Ouais. Donc les parents ont eu extrêmement peur. Il y a certains enfants qui ne voulaient plus aller à l'école, et c'est un des gros problèmes du harcèlement, c'est aussi la déscolarisation de certains enfants. Donc on a eu beaucoup de témoignages inquiets. C'est pour ça que la FCPE a lancé cette alerte, parce qu'on avait vraiment une remontée de différentes régions de France avec ces mêmes témoignages, parce que les réseaux sont vraiment très, très largement partagés, quelle que soit la région. Et lundi, il y a effectivement eu des troubles dans certaines écoles où il y a des élèves, on a vu sur les réseaux sociaux aussi, des élèves qui ont été violentés suite à ce hashtag. Mais je pense que la réaction qui a eu à la fois des parents d'élèves du ministère ont permis de calmer le jeu, et puis la suppression du hashtag, je pense, a été un message fort pour les enfants.
On va en parler, on va entendre justement la réaction du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Ce qui vient de se passer avec les tentatives de harcèlement vis-à-vis des élèves de 6e doit tous nous alerter pour faire un rebond dans l'autre sens. C'est pourquoi on a créé ce mot dièse « Bienvenue au 2010 », mais qui, au-delà de cette initiative, va beaucoup plus loin. C'est d'abord une relation renforcée avec les plateformes. TikTok, par exemple, a retiré le hashtag anti-2010, qui était vraiment une très mauvaise chose. Nous devons tous protéger nos enfants par rapport à ces phénomènes, qui se passent pas seulement dans l'établissement, mais aussi à la maison, puisque c'est sur Internet. Et oui, une société comme la nôtre doit avoir un sursaut pour la fraternité.
Justine Atlan, je rappelle que vous êtes la directrice générale de e-France, c'est-à-dire une association de protection de l'enfance sur Internet. Que pensez-vous de cette prise de parole ?
Alors, j'ai précisé que je suis aussi la directrice du 3018, qui est le numéro cours national contre les violences numériques et donc contre le cyberharcèlement, qui est le partenaire de l'éducation nationale depuis 2011 dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et c'est parce que nous avons des accords privilégiés avec tous les réseaux sociaux, dont TikTok, que le hashtag a pu être retiré, puisque nous l'avons fait sur ce hashtag, comme on l'a déjà fait dans d'autres, tous les jours d'ailleurs qu'on le fait, mais on l'a fait aussi pour la jeune Mila, que nous avions pris en charge en janvier 2020. Pour le hashtag anti-2010, nous avons signalé à TikTok avec des procédures prioritaires qu'on a avec eux. Et donc, ils ont retiré, effectivement, suite à nos signalements, ce hashtag. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on sait faire, qu'on fait tous les jours, et qu'on a mis au service de ce hashtag, en l'occurrence, pour montrer que des choses sont possibles sur Internet. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on finit par être plus exigeant avec les réseaux sociaux qu'avec l'école. Parce qu'en réalité, on en arrive à des points, la preuve en est, c'est que finalement, ce hashtag a pu être retiré relativement facilement et rapidement à partir du moment où on l'a signalé. Et que les remontées qu'on a, nous, et je pense que la FCPE a les mêmes, de parents et de familles qui sont victimes de harcèlement, l'éducation nationale est beaucoup moins réactive dans le traitement des cas qui lui sont présentés. Donc, je voudrais pas que le ministère se dédouane aujourd'hui de la lutte contre le harcèlement à l'école qu'il a géré, en pointant du doigt les réseaux sociaux et en faisant comme si le problème était réglé dans les établissements scolaires et que maintenant, le problème, c'était les plateformes. Il y a beaucoup de choses à améliorer sur les plateformes, mais il y a aussi encore beaucoup de choses à améliorer à l'école.
Guylaine Morvan-Dubois, je vous voyais approuver ce que disait Justine Atlan.
Oui, le harcèlement ne s'arrête pas aux réseaux sociaux, et l'action du ministère, il ne faut pas qu'elle s'arrête là. C'est vraiment un problème majeur, le harcèlement. Comme je vous disais, les pourcentages sont énormes d'enfants qui sont harcelés. Ça veut dire que tout le monde dans sa famille
13%
a un enfant harcelé dans son contexte familial, un enfant qui a été harcelé ou qui est encore harcelé. Et souvent, on ne le sait pas. Donc, vraiment, la parole est importante. Et pour les enfants, c'est important que ce soit pris en charge au niveau des établissements scolaires, qu'il y ait des affichages, par exemple, de numéros qui peuvent appeler, qu'il y ait des affichages aussi sur les personnes, tout simplement, qui peuvent aller voir. Et ça, ce n'est pas encore présent dans tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, les collèges ou les lycées. Donc, c'est vraiment important que l'éducation nationale impose ces numéros ressources pour que les élèves puissent savoir à qui s'adresser et mettent aussi en place des systèmes qui ont montré leur efficacité de médiation entre pairs qui permettent vraiment de faire baisser le niveau de harcèlement là où ça a été mis en place.
Là, en l'occurrence, puisque vous dites qu'il y avait un manque, qu'a fait l'éducation nationale sur le terrain? Qu'ont fait les professeurs, les directeurs d'établissement sur ce hashtag précisément anti-2010?
Alors, ce qui a été annoncé, c'est que tous les établissements avaient reçu donc une circulaire pour informer les élèves. En tant que parent, moi j'ai posé la question à ma fille, elle n'a pas eu d'information.
Elle était dans quel collège, dans quel lycée?
Je sais pas.
Elle était dans un collège, dans
voilà,
un lycée.
Dans un lycée parisien, et effectivement, il n'y a pas eu d'information. Donc, c'est compliqué. Le retour d'informations vers les élèves est très compliqué et il faut se poser vraiment la question de l'implication de toute la communauté éducative. Je pense que pour les professeurs aussi, c'est un phénomène qui est un peu mal connu. Ils ont l'impression que ça touche une minorité d'élèves et vraiment un tout petit pourcentage et que c'est pas à eux de gérer ça, mais il faut savoir que dans leur classe, statistiquement, ils ont des élèves harcelés.
On va redonner le numéro, s'il vous plaît, Justine Atlan.
Le 3018.
Qu'est-ce qu'on trouve comme accueil ce numéro? On peut appeler que l'on soit un enfant ou un parent.
Tout à fait, on peut appeler tous les jours du lundi au samedi. On peut chatter ou envoyer un messenger si on n'a pas envie de parler. Mmh. Et il y a des juristes, des psychologues et des spécialistes du numérique qui vous répondent, qui vous prennent en charge, qui comprennent ce qui se passe, qui vont regarder en même temps que vous sur vos réseaux et vos messageries que vous avez reçues. Et ensuite, on transfère au service de modération de tous les réseaux sociaux un signalement de contenu dont est victime un mineur. Et dans l'heure qui suit pour les plus réactifs et pour les contenus les plus graves, ils sont capables de les retirer.
Complètement oublié de vous demander, on est émission média, ici le hashtag anti-2010 a été bloqué sur TikTok. A-t-il été bloqué sur les autres plateformes Twitter ou Snapchat ou Instagram?
Alors je crois qu'Instagram l'a bloqué aussi. Twitter, je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait.
Merci beaucoup Justine Atlan. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association e-enfance et pas seulement. Et Guylaine Morvan-Dubois, vous êtes la présidente de la FCPE à Paris, de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on va parler d'une émission de portrait, c'est La face cachée de, avec le journaliste Rachid Embarki. Et ce soir, le numéro qui est diffusé sur RMC Story s'intéresse au parcours de la chanteuse Diams qui était au sommet et qui a disparu. Pourquoi? Comment? Réponse dans quelques instants.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Rachid Embarki.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste multicarte, présentateur des Journaux de la Nuit sur BFM TV, co-présentateur avec Dominique Rizet de Faites Entrer l'Accusé que vous avez relancé sur RMC Story. C'est le canal 23 de la TNT. C'est le dimanche à 21h. Et là, votre actualité, vous présentez La face cachée de. C'est la deuxième saison qui a démarré. Une collection sur RMC Story. Il y a déjà eu Loana, Jean-Marie Bigard, Céline Dion, Éric Zemmour. C'était la première en mars dernier. Et ce soir, qui est vraiment Diams? À 21h, pardon. Pourquoi elle maintenant? Non. Pourquoi Diams?
Parce qu'elle est intéressante, elle intéresse tout le monde. Diams, elle a disparu des écrans il y a 10 ans. Alors, elle a fait quelques petites réapparitions comme ça dans des interviews qui ont d'ailleurs parfois surpris, voire choqué. Mmh. Mais c'est intéressant de savoir, peut-être maintenant, on aurait pu être la semaine prochaine ou la semaine d'après, hein, mais c'est intéressant de savoir ce qu'est devenue Mélanie.
Oui, parce qu'elle s'appelait Mélanie. Ça fait 12 ans que Diams n'a pas sorti d'album. Le dernier en date, SOS, était sorti en 2009. Et pour raconter aux plus jeunes qui ne la connaissent pas, carrière incroyable au début des années 2000, 2 millions d'albums vendus. Elle arrête sa carrière en 2010. On pensait à une dépression. Il y a eu une dépression. Elle l'a avoué quelques mois plus tard. On apprend qu'elle s'est convertie à l'islam et Paris Match la montre voilée dans les rues de Paris. Vous annoncez dans Enquête et Révélation, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Diams qu'on ne connaissait pas encore?
Je peux pas vous le dire. Je vais pas spolier.
Moi, j'ai vu l'émission.
Mais non, on va découvrir sa vie d'aujourd'hui. Et c'est pas inintéressant.
Alors, c'est d'autant moins inintéressant que le contraste est absolument saisissant. C'est un documentaire chronologique, donc ça commence très très bien par le succès. C'est quand c'est assez drôle. C'est Fred Musa, l'animateur de l'émission Planète Rap sur Skyrock, qui se souvient, parce qu'il était là, de la fabrication du tube La Boulette.
On est en studio la veille et elle met un petit coup de pression à Teuf Amastaf. Alors dis-moi les mecs, demain je viens, je veux un morceau qui pète là. Me refaites pas encore un truc avec du piano, des machins, des trucs. J'en peux plus, je n'en peux plus quoi. Donc les mecs bossent toute la nuit. Et à un moment, alors, je sais plus qui a l'idée, si c'est Teuf Amastaf ou un des producteurs de l'époque qui dit bon, on va quand même la faire chier un peu, on va mettre du piano au début. Et quand t'entends La Boulette, c'est vrai que t'as une intro au piano.
Alors ouais, je me raconte, ouais, je déconne. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mes rap, voilà de La Boulette.
Donc elle arrive le lendemain, tiens Mélanie, on t'a fait un son, écoute. Elle commence à mettre dans le lecteur CD La Boulette et ça commence par du piano. Et là, énervement. Mais vous foutez de ma gueule, je vous ai dit, j'en peux plus du piano, machin, marre, machin, etc. Il la regarde avec un petit sourire au coin. Calme, écoute. Et là, t'as le beat qui part, t'as La Boulette et elle devient, mais une espèce d'hystérie collective dans le studio. Elle saute partout, elle commence à prendre un papier, elle commence à noter des idées. Et t'as le morceau, La Boulette, finalement, qui va être fini dans la foulée.
Réussite stratosphérique, 1 million d'albums vendus. À un moment donné de sa vie, on ne sait pas combien elle gagne. Le chiffre que vous donnez, c'est qu'elle a déjà donné 1 million au fisc. Donc il faut en gagner pour donner 1 million au fisc déjà.
Il faut en gagner beaucoup, oui.
Sa vie devient un total tourbillon. Il y a tout le temps des gens qui l'attendent en bas de chez elle, que ce soit des photographes ou des fans à la limite du harcèlement. Et c'est pour ça
que c'est aussi intéressant, j'imagine, et que vous êtes intéressé à elle, c'est que Diams entre dans le débat politique. Elle est aux côtés de Ségolène Royal, par exemple.
Exactement. Elle entre dans le débat politique et elle entre dans le débat tout court. Quand vous le racontiez tout à l'heure, on l'aperçoit dans les rues de Paris avec un voile intégral.
Oh là là, mais attendez, on est bien avant ça. J'en reviens à ce titre, La Boulette, la chanson qui fait passer des messages politiques, notamment à Nicolas Sarkozy, qui est alors candidat à l'élection présidentielle. Ce que je précise, qu'elle était une fois sur le plateau de Canal+, du grand journal, à côté de Jamel Debbouze et à côté de Ségolène Royal, qui annonce sa candidature. Donc elle est totalement dans le game, comme on dit. Franck Tapiro, qui était l'expert communication auprès de Nicolas Sarkozy, se souvient de la réaction de lui, du président et de ses équipes, après avoir écouté La Boulette.
Quand en 2006, elle parle de Sarko, un peu de démago dans Sarko, franchement, qui a travaillé avec Sarkozy pendant quand même plus de 16 ans, si j'avais entendu que démago quand on parle de Sarko, j'aurais embrassé sur la bouche n'importe qui. Donc c'est la moins pire de toutes les insultes qu'on a entendues concernant Nicolas Sarkozy. Donc quand on dit démago de Sarko, moi j'étais content, j'ai dit mais voilà quelqu'un qui est vraiment bien. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy, et là je le dis sérieusement, est un expert de la chanson française. Il connaît les paroles mieux que les auteurs, mieux que les chanteurs, mieux que les producteurs, mieux que les interprètes. J'ai jamais vu ça, c'est un hypermnésique. Il connaît toutes les paroles de rap par cœur. Sarkozy adorait La Boulette.
Alors je dois dire que ça c'est pas du stock, c'est que des interviews fraîches, il y a beaucoup d'intervenants, il y a Nicole Schluss, l'ex-manageuse de Diams que je n'avais jamais entendu parler, Olivier Cachin il a attendu, c'est un spécialiste de rap, Franck Tapiro, il y a même un psy qui parle, Romain Clerget, et puis il y a aussi cette chanson que vous montrez qui s'appelle Marine, qui est dédiée à Marine Le Pen, qui est encore perçue comme la fille de son père, qui n'est pas au total premier plan comme elle l'est aujourd'hui. Chanson qui a été reprise récemment par Camila Jordana et je ne sais plus qui, je vais retrouver mes notes. Mais c'est Amel Bent et Vita, c'est important aussi cette chanson, Marine.
Bah, c'est très important, puis c'est un engagement politique, clairement. Je veux dire, voilà, elle vivait avec son temps et elle savait l'influence qu'elle avait sur la jeunesse, sur ceux qui avaient un bulletin de vote et qui pouvaient influencer la vie politique française. C'est pour ça qu'elle intervenait et c'est pour ça qu'elle était très appréciée par certains, détestée par d'autres. Mais en tout cas, elle avait un succès fou.
Par qui était-elle détestée et que s'est-il passé? Vous avez raconté cette photo dans les rues de Paris où Diams apparaît voilée. On en parle juste après. Rachid Mbarki, la face cachée de Diams. C'est totalement ouvert ici dans Culture Média. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Rachid Mbarki qui présente cette collection La face cachée de. C'est sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Et l'émission, la prochaine, c'est-à-dire ce soir à 21h, c'est Qui est vraiment Diams ? On parlait de son rôle dans la chanson, puis de son rôle politique. Olivier Cachin, spécialiste de musique urbaine, revient sur l'influence que l'artiste a pu avoir sur les politiques, justement.
Et c'est un morceau qui est très important parce que bah, ça va la faire glisser dans une arène dangereuse, c'est-à-dire que plein de personnes politiques vont tenter justement de l'utiliser parce que c'est un des grands problèmes du rap, c'est de ne pas être récupéré. Or, quand on fait un morceau comme Marine, bah, le risque de récupération, il existe. Et d'ailleurs, on l'a vu quand Diams s'est passé au Grand Journal avec Jamel Debbouze et Ségolène Royal, et elle a plus tard analyser cette rencontre sur un plateau en direct presque comme un piège parce qu'elle se retrouvait à côté de Ségolène Royal qui du coup, bah, évidemment, bah, profitait du fait d'être avec une star adulée par tellement d'adolescents et de jeunes. Mais c'est vrai que le rap et la politique, c'est un mélange extrêmement dangereux.
C'est ce qu'on appelle la récupération et ce n'est pas le seul cas puisqu'en 2009, Diams est photographiée à son insu par Paris Match. Elle y apparaît voilée, elle est son compagnon de l'époque et le magazine annonce sa conversion à l'islam alors qu'elle n'en avait jamais parlé auparavant. Je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est que vous montrez une photo, mais elle, qui est voilée, est en fait floutée, on ne la reconnaît pas, on voit juste son compagnon. Pour paraphraser le titre de l'émission, la face cachée de Diams reste cachée. Pour quelle raison? Pourquoi vous n'avez pas osé montrer cette photo-là ou vous n'avez pas voulu?
Pour s'éviter un procès, je pense.
Vous êtes juriste de formation?
Oui.
Donc c'est...
Voilà.
Non, votre réponse est franche. Merci
de cette franchise. Il faut dire les choses.
Ouais.
Non,
parce que dans l'émission, on voit des photos de Diams voilées.
Oui.
Mais on ne voit pas la couverture de match.
Exactement. Mais après, c'est des questions de droit. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais
si, c'est important les détails, parce qu'on est une émission média ici. Vous savez.
Non, mais bien sûr. Mais voilà, il y a des questions de droit. Il y a des questions de droit pour la photo, etc. Donc, ça peut-être que voilà, ça a été un petit peu compliqué. En tout cas, on la voit, elle est floutée. Mais on sait que c'est elle. Donc, quelque part, ça change pas grand-chose. Et voilà. Donc, l'essentiel, c'était qu'on puisse la voir comme elle n'a pas voulu apparaître, parce qu'encore une fois, et vous l'avez très bien dit, c'était une photo volée.
Exactement. Justement, vous êtes journaliste, et aux journalistes que je m'adresse, quel rôle a joué cette accumulation de pression médiatique dans l'arrêt de sa carrière ?
Oh bah, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'elle est tombée dans une profonde dépression à un moment, parce que c'est vertigineux pour une jeune femme d'être comme ça au sommet de l'adulation presque générale, d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, vous mettez un titre de Diams quelque part, tout le monde danse, et tout le monde se souvient à des souvenirs liés à ça. Donc il y a cette pression, en plus d'être embarqué dans une histoire plus ou moins politique, ça a dû la troubler encore davantage, parce que c'est peut-être pas ce qu'elle avait envie de véhiculer comme message. Elle est tombée dans des pièges, elle le dit elle-même quand le plateau de Canal+ avec Ségolène Royal. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être compliqué à vivre pour une jeune femme.
Il y a même une analyse d'un psy qui est Romain Clerget qui raconte qu'en plus de ça, elle est bipolaire, donc elle passe par des phases de d'euphorie extrême et des phase de dépression extrême, et vous racontez aussi, enfin elle l'a raconté dans son livre, Voici avait titré une fois Grosse fatigue pour Diams, le lendemain de sa prestation aux Victoires de la Musique, où elle avait chanté, après je crois qu'elle est fondue en larmes, où elle s'était écroulée, le lendemain, ou quelques jours après, Diams s'est rendue dans les locaux de Voici, où elle a en gros tout cassé à l'accueil, et elle a manqué même de se battre avec des gens, donc on voit que c'est absolument pas facile du tout. Ce qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est que il dit ce documentaire que sa conversion à l'islam a été très mal prise, mais vous ne citez aucun exemple, aucun article, aucun intervenant. Au contraire, tous les intervenants du documentaire la défendent et défendent son choix. Pourquoi ce choix unique ?
Alors, c'est très compliqué d'en parler, ça, il faut être honnête. Dans notre société, aujourd'hui, c'est très difficile d'en parler. Moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, ça a été pour elle quelque chose d'une décision personnelle. Elle fait après tout ce qu'elle veut, mais ça a choqué une bonne partie de la France, ouais, de l'avoir comme ça.
Oui, mais je veux dire par là que vous avez décidé de ne pas mettre les phrases choquantes. Je dis pas les phrases insultantes, mais deux ou trois personnes qui auraient pu, vous avez préféré ne prendre aucun risque.
Non, c'est pas prendre de risque, c'est de se dire c'est inutile.
À la fin du documentaire, je vais pas spoiler, vous montrer où elle habite désormais, quels sont ses projets, ce qu'elle fait, et est-ce qu'elle pourrait revenir un jour à la chanson ? Là, je peux le dire, tous ses amis disent non, c'est quasiment impossible qu'elle revienne. Vous avez démarré la saison avec le doc La face cachée de Nabila, Rachid Embarki. Oui. Vous avez vu qu'avant même la diffusion du reportage, Nabila a réagi sur les réseaux sociaux. Visiblement, elle n'a pas vraiment compris la démarche de votre émission.
Je viens de voir que ce soir, il y aurait un reportage sur moi qui s'appelle La face cachée de Nabila. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore raconter. Je ne vais pas pouvoir regarder parce que je suis en Angleterre, mais j'ai vraiment hâte parce que je pensais qu'on faisait ce genre de reportage quand les gens étaient morts, pas quand ils étaient vivants. Les reportages après la mort de Johnny Hallyday, après la mort de Edith Piaf, des gens morts. Et moi, je suis en vie, donc je comprends pas pourquoi il y a des reportages sur moi alors que je suis en vie. C'est trop bizarre. Donc voilà, je vais regarder ça ce soir et je vous en dirai plus.
Faut lui dire à Nabila, non, vous faites pas que les morts.
Les morts. Hein, on fait pas que les morts. Non, on ne faisait pas que des hommages. Hein. Ouais. On essaye de comprendre un certain nombre de personnalités et Nabila en faisait partie.
Vous aviez parlé la saison passée de Didier Raoult, Laetitia Hallyday, Vladimir Poutine, Loana, Christian Quesada, entre autres. Cette saison, qui vous seront les personnes que vous allez suivre dans la face cachée de...
Alors, puisque pour rebondir ce que vient de dire Nabila, on va faire Claude François, elle va être contente.
Ouais, il est mort.
C'est quelqu'un qui est décédé depuis un bon moment. Mais il y aura Tom Cruise, par exemple, et puis il y a des faits de société aussi.
Ouais.
Les francs-maçons, très prochainement aussi les complotistes.
En mars, vous avez démarré la collection La face cachée 2 par un doc consacré à Éric Zemmour.
Ouais.
Vous avez fait votre meilleur score ce jour-là ?
Non.
C'était qui le meilleur score de La face cachée 2 ?
Quesada.
Christian Quesada. Multi-gagnant à un jeu télévisé dont on a appris ensuite les turpitudes et le mot est faible. Merci beaucoup Rachid Mbarki, je rappelle La Face Cachée de Diams sur RMC Story, c'est ce soir à 21h et faites entrer l'accusé, ça continue évidemment.
Ah ben évidemment, ça
prochain
continue.
Numéro
prochain numéro, le 3 octobre ce sera Hoepfner, un violeur en série.
Merci d'avoir été avec nous en direct Rachid Mbarki, Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h et puis Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité c'est le comédien Philippe Lelièvre pour son spectacle Plus que givré. Et puis dans Les Indispensables, Margot Barallon va nous parler de deux films sur la guerre sans être des films de guerre. Et Nicolas Caro d'un roman de science-fiction post-apocalyptique. À la fin de l'émission, évidemment, Marc-Antoine Lebret dans ses œuvres. A tout de suite sur Europe 1.